peut-être que ça m'a aidé de façon inconsciente à écrire mes livres, mais je n'écris jamais mes livres en ayant d'autres livres ouverts à côté. Je ne veux pas être tenté d'emprunter aux autres ce qu'ils ont bien fait. Donc je m'interdis en général de lire des textes qui peuvent être connectés ou de regarder des films qui sont connectés ou pour être vraiment libre.
Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe au Centre Pompidou, à Paris. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, je rencontre Mathieu Palin, l'un des invités du festival Effraction en 2025 pour son roman « Les hommes manquent de courage » paru à l'Iconoclaste. Journaliste et romancier engagé, notamment aux côtés des femmes, lauréat entre autres du prix Interallié et du Grand Prix des lectrices de Elle pour son livre « Ne t'arrête pas de courir », auteur du podcast « Des hommes violents » sur France Culture, Mathieu Palin a la particularité de transitionner entre les écritures, croisant le pur réel et la fiction. Dans son nouveau roman, il s'inspire de la vie d'une femme, Jessie, prof de maths, mère célibataire d'un ado de 15 ans, en qui il a tout de suite vu un personnage de roman. Je le retrouve à l'entrée de la bibliothèque.
Bonjour Mathieu.
Bonjour, enchanté.
Enchanté. Bienvenue.
Et je lui explique les règles du jeu de notre déambulation.
On va faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire normalement à la Bibliothèque publique d'information. On va emprunter des livres. Vous aurez toute la bibliothèque pour vous et vous pourrez choisir trois livres qui comptent le plus pour vous. Okay. Vous avez déjà une petite idée ?
J'ai une petite idée, ouais.
On y va ?
On y va.
Le Centre Pompidou, pour vous, ça représente quelque chose ?
Je suis un mauvais élève du Centre Pompidou, moi. Quand j'ai dit tout à l'heure que je venais, ma conjointe m'a dit « Oh, la chance, il y a une super exposition, j'ai absolument envie d'y aller. » J'ai pas cette habitude-là des musées.
Bonjour.
Bonjour.
Surveille les sacs.
Merci.
Et les bibliothèques, c'est un lieu que vous fréquentez pas trop, vous me disiez.
Bah, je le fréquente finalement, je le refréquente. Par ma fonction d'écrivain invité dans les bibliothèques, c'est-à-dire que je redécouvre des endroits et j'y vais un petit peu. J'ai deux filles en fait, qui sont petites, qui adorent les bibliothèques parce que c'est une caverne d'Ali Baba pour elles. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai pas ce réflexe. Puis j'ai ce privilège aussi de pouvoir m'acheter mes propres livres aussi. Donc quand j'ai besoin d'un livre, je l'achète. Et j'ai pas ce réflexe d'aller l'emprunter.
En tant qu'adulte, Mathieu Palin n'a donc pas le réflexe bibliothèque. Mais ce lieu le renvoie quelques années en arrière et lui rappelle des souvenirs d'enfance, pas forcément les plus agréables.
De mon enfance, ils sont liés à une personne qui a été marquante dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qu'on détestait très fort. Je dis « on » parce qu'on était une classe assez soudée, on s'est suivis en primaire du CP, CE1, CE2, CM1. Et quand on est arrivé en CM2, on a eu une maîtresse. Et elle était assez radicale, elle disait « Le dernier de la classe, il faut qu'il sorte de cette année en ayant lu au moins 40 livres. » Et elle nous punissait de interdiction de sortir, de récréation et tout machin. Pour plein de trucs qui nous semblaient des conneries, mais mine de rien, avec la manière forte, elle nous a mis dans les mains des livres assez difficiles, je pense, pour des enfants de 10 ans, mais avec des sujets qui étaient loin d'être enfantins, qui touchaient à la guerre, à l'exil. Et ce sont des livres dont je me souviens encore assez précisément. Je pense à mon ami Frédéric, par exemple, quitter son pays. Je m'en souviens encore, quoi. Je l'ai revue, cette institutrice, qui s'appelait Madame Cascaret, et je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, mais vous saviez qu'on vous détestait, en fait. Vous étiez la pire personne dans cette école et tout. Elle dit, ouais, je sais, mais je m'en foutais parce que mon but n'était pas que vous passiez en 6e et que vous ayez votre bac. Parce qu'elle était dans une école primaire de banlieue, qui était coupée aussi d'une vie parisienne, très culturelle et tout, non. Et elle s'était dit, par les livres, ils auront accès au savoir, entre guillemets.
Alors on quitte la chenille des escalators du Centre Pompidou pour entrer dans la bibliothèque, dans les salles de lecture. On va devoir chuchoter maintenant. Vous avez repéré où étaient ces trois livres que vous avez choisis. Mm-hmm. Vous n'allez pas me dire lesquels c'est, mais je veux bien quelques indices en chuchotant.
Oula, pas facile à deviner. Il y a un livre qui est un grand classique de la littérature américaine. Il est assez controversé, déjà parce que l'auteur est controversé. Le deuxième, c'est un livre qui est écrit par un auteur français qui a un parcours de journaliste culturel, qui a travaillé à Télérama avant de se consacrer à l'écriture. C'est son premier livre de non-fiction. Et ça a bouleversé sa vie, comme de près sur la même méthode de travail, de sang-froid avait bouleversé la vie de Truman Capote. Et le troisième, c'est...
Plus corsé, je crois.
Plus corsé, c'est très difficile à trouver, je pense. Mais c'est un génie de la littérature noire américaine. Lui aussi, un profil de journaliste qui s'est mis à l'écriture de romans.
Ok, on peut y aller. Vous avez été très discret, j'ai rien vu. J'ai détourné les yeux pendant que vous les preniez sous votre manteau.
J'ai été efficace. C'est impressionnant, tous ces gens qui travaillent. Je me demandais toujours à quoi ça pouvait bien ressembler, Beaubourg, pour un étudiant qui vient travailler. Bah là, ça y est, je vois.
Mais vous savez que vous qui aimez bien les lieux où on se dit des secrets, c'est un lieu où les étudiants se racontent pas mal de secrets, parce que c'est un lieu où on chuchote et où on fait semblant de venir travailler, mais où il se passe pas mal de choses.
Ouais, j'étais un garçon de café, moi. J'allais dans les cafés pour travailler. Ça m'arrive encore, d'ailleurs.
Dans Les hommes manquent de courage, Mathieu Palin, vous racontez l'histoire, votre rencontre réelle avec Jesse, qui au départ n'avait pas spécialement de raison ni d'intention de devenir un personnage de roman.
Non, elle n'avait pas du tout cette intention, parce qu'elle ne savait même pas que j'écrivais des livres. En fait, elle m'a contacté après avoir entendu un podcast que j'avais fait sur France Culture, parce que j'étais l'auteur et qu'elle avait été bouleversée par ce qu'elle avait entendu. Il y avait une résonance avec sa propre histoire et donc elle m'a écrit en me disant juste j'ai pas vraiment vécu ces histoires mais ça me parle, je pense que j'avais enfoui tout ça. Mais cette femme m'a beaucoup intéressé parce que ça fait partie des gens sur qui vous pouvez pas coller d'étiquette en fait. Elle est à la fois prof de maths, 45 ans mais en même temps avec un vécu et un caractère qui colle pas avec l'image un peu stéréotypée qu'on pourrait avoir de la prof de maths de collège. Donc elle m'a intéressé, on s'est revus très souvent. Et plus je la revoyais, plus j'avais envie de la revoir et de la comprendre et de creuser son histoire. Et donc là, je lui ai demandé l'autorisation. Ça faisait déjà plus de 6 mois qu'on se voyait. Je travaille très souvent comme ça, en fait, à partir du réel.
On ne peut pas trop en dire sur ce personnage, mais vous avez commencé à le dire, elle est hors norme, elle est hors catégorie, elle est très, très attachante. Au moment où s'ouvre le livre, elle n'a pas de nouvelles de son fils depuis un petit moment et elle reçoit un coup de fil de lui qui est assez alarmant.
Ouais, elle n'a pas de nouvelles de Marco, son fils de 15 ans, depuis 3 jours. Et ça fait déjà pas mal de temps que leur relation se détériore. L'année qui a précédé l'ouverture de ce livre, elle l'a pris dans sa classe en se disant « Bon, il est en décrochage scolaire, il va pas bien du tout, au moins je l'aurai sous les yeux. » Ce qui, bien entendu, était la pire des idées puisque son fils se foutait de sa gueule en cours, l'appelait maman, arrivait en retard, elle était obligée de le virer de ses propres cours. Leur relation s'est lentement détériorée et quand s'ouvre le livre, ce fils a disparu, elle sait qu'il doit pas être bien loin. Là, elle a d'autres problèmes. Elle doit recevoir sa belle-famille à la maison parce qu'elle s'est remise en couple avec un autre gars. Et elle veut que ça se passe bien, donc elle veut les inviter au restaurant, elle veut leur montrer Paris. Et dans cette journée parfaite qui va devenir catastrophique, elle va recevoir un appel de son fils. Il est à peu près minuit, 1h du matin et son fils lui dit « Maman, est-ce que t'as la voiture ? S'il te plaît, viens me chercher. » Et ce moment-là est un moment un peu charnière dans le livre. Dans le sens où on avait une narratrice qui nous expliquait un peu son histoire et à ce moment-là, les planètes s'inversent, quoi. Elle lâche tout et bien entendu, elle va chercher son fils.
Ça fait des années que vous écrivez des livres qui sont très engagés pour la cause des femmes et qui sont aussi engagés dans une réflexion sur comment les hommes se placent et se pensent dans cette cause féministe. Pourquoi l'histoire de Jesse a résonné pour vous ?
Je pense que je suis assez intéressé par la question de la transmission. Quand on a des enfants, il est évident qu'on va leur transmettre un certain nombre de choses. Mais on leur transmet aussi tout un tas de trucs qu'on n'aimerait peut-être pas leur transmettre. Et donc quand j'ai rencontré Jesse, c'est ça que j'ai retrouvé aussi dans son histoire. Cette espèce de vertige à constater que l'histoire qui nous traumatique, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait du mal, et qu'on a tué en espérant le mettre sous le tapis et que ça ne remonte jamais à la surface, comme elle dit, et ben un jour ça remonte et ça vous explose au visage. Et donc ça, au-delà de son histoire à elle personnelle, au-delà du côté extraordinaire de sa vie, c'était ce qui m'intéressait le plus.
Pendant que vous parliez, on a pris un ascenseur un peu futuriste et là on est au sous-sol. On va rentrer dans ce qu'on appelle dans ce podcast la salle des machines.
On est dans les entrailles du centre Pompidou. C'est ici que vont tous ces tuyaux. À quoi servent-ils ? On n'en sait rien, mais en tout cas, ils arrivent ici.
Ça vous évoque quoi cet endroit ?
Ça m'évoque... En fait, j'ai fait des rencontres dans des grandes salles de spectacle. Et il y a toujours comme ça les entrées des artistes qui... où on croise tout le décor. Donc j'ai l'impression d'être un peu là-dedans.
Dans l'arrière-salle.
Dans l'arrière-salle.
Là où on voit que tout est pour de faux, quoi, où il y a les costumes. Donc là, on va rentrer dans le studio d'enregistrement. Alors Mathieu, quel est le premier livre dont vous avez choisi de nous parler ?
Alors le premier livre, c'est L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, qui parle de l'histoire extraordinaire de Jean-Claude Roman, qui est ce faux médecin qui prétendait travailler à l'OMS en Suisse et qui, en réalité, n'avait jamais passé sa deuxième année de médecine. Il se réinscrivait chaque année depuis pendant 17 ou 18 ans d'affilée. C'est à la fois une enquête sur le mensonge, c'est un livre de non-fiction, c'est le premier livre de non-fiction d'Emmanuel Carrère. En fait, après, il n'écrira plus que de la non-fiction. Comme si cette histoire-là avait été tellement forte et l'avait tellement bouleversée qu'il n'était plus ensuite capable de retourner sur, entre guillemets, des petites histoires qui seraient des histoires fausses. Et c'est un livre que j'ai mis longtemps à lire parce qu'il se trouve que dans ma famille, un de mes oncles a à peu près la même histoire que Jean-Claude Roman. Et donc, c'est un livre que ma mère avait acheté mais qu'elle avait eu beaucoup, beaucoup de mal à lire et elle m'avait dit que c'était très, très douloureux pour elle de lire ce texte parce que ça rentrait trop en résonance avec la souffrance de cette famille. Donc c'est un livre que j'ai lu assez tardivement, je devais être déjà adulte quand j'ai osé me lancer sur ce texte et c'est vrai que c'est un texte qui est très fort, particulièrement pour quelqu'un comme moi qui est d'abord journaliste. C'est un texte enquêté dans lequel le narrateur, qui est aussi l'auteur, se met à hauteur du sujet. Ce mec qui est un meurtrier, qui a tué sa femme et ses gosses, qui a tué ses parents. C'est tout à fait l'exemple typique de l'homme qui pourrait être qualifié de monstrueux. Mais Emmanuel Carrère ne cède pas à cette facilité et au contraire, il va chercher en lui quelle est la part de monstre, ou en tout cas dans Jean-Claude Roman, quelle est la part d'humanité. Alors c'est Carrère qui parle et c'est lui qui dit « je ». Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Roman tuait sa femme et ses enfants, j'assistais avec les miens à une réunion pédagogique à l'école de Gabriel, notre fils aîné. Il avait 5 ans, l'âge d'Antoine Roman. Nous sommes allés ensuite déjeuner chez mes parents et Roman chez les siens, qu'il a tué après le repas. J'ai passé seul dans mon studio l'après-midi du samedi et le dimanche, habituellement consacré à la vie commune, car je terminais un livre auquel je travaillais depuis un an, la biographie du romancier de science-fiction Philip K. Dick. Le dernier chapitre racontait les journées qu'il a passées dans le coma avant de mourir. J'ai fini le mardi soir et le mercredi matin, j'ai lu le premier article de Libération consacré à l'affaire Roman.
L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, donc c'est sorti en 2000 aux éditions POL. Quel est le deuxième livre que vous avez choisi d'évoquer ?
Alors le deuxième livre, c'est L'Attrape-cœur de Jérôme Salinger. Alors là, le livre que j'ai dans les mains, la couverture est bleue, mais le livre, la version la plus répandue, c'est une couverture un peu rouge pourpre, un peu rose même. Et ce titre, L'Attrape-cœur, avec cette couverture rose pourpre, ça m'avait vachement repoussé en fait pendant toutes mes années de collège, lycée. Je m'étais raconté l'histoire d'un livre à l'eau de rose, qui serait une sorte de roman de gare. Il y a même une fille dans ma classe qui, je me souviens, lisait ce livre en faisant semblant de continuer à écouter le cours d'histoire géo. Un jour, j'étais tout seul à la gare, j'étais jeune journaliste à Libération, j'ai acheté ce livre. Pour quelle raison je l'ai acheté, j'en sais rien. Peut-être parce que ça faisait trop de fois que je le croisais et qu'il fallait que je l'ouvre. Et ça a été... j'ai pas d'autres exemples comme ça de livres qui m'ont fait ce choc. Ça a été une déflagration, quoi. J'ai eu l'impression de rencontrer une forme de génie littéraire avec une force. L'histoire de ce livre, c'est un gamin de 17 ans qui s'appelle Holden Caulfield qui suit ses études dans un internat au nord de l'État de New York et qui va se faire virer. Et seulement, il se fait virer à 3 jours des vacances de Noël. Et au lieu de prévenir sa famille que finalement, il va rentrer 3 jours plus tôt, il fait semblant. Un peu comme Jean-Claude Roman faisait semblant. Il retarde pour arriver le jour même à la maison. Et donc, il a 3 jours à errer dans les rues de New York. Et c'est marrant parce que je le lisais à voix haute à des amis. Je l'ai offert à tout le monde autour de moi. Et j'ai remarqué un truc, c'est que c'est un livre qui plaît vraiment beaucoup aux garçons. Je pense qu'il y a une lecture assez genrée aussi de cette histoire de jeune garçon qui aimerait au fond être un homme, un vrai, tel qu'il se fantasme ce statut-là dans sa tête, quoi. Et moi, je trouve ça touchant et je pense que certaines lectrices peut-être trouveraient ça un peu plus pathétique et donc ont moins d'attachement au personnage. Et c'est un livre que je... Il n'y a pas beaucoup de livres comme ça, mais quand je retombe dessus dans ma bibliothèque, je l'ouvre, je me dis tiens, je vais lire un chapitre et en fait, je le relis en entier. Après, je ne suis pas dupe non plus sur l'auteur parce que j'ai lu les livres de Joyce Maynard, une jeune autrice américaine qui a eu le privilège ou la folie de rencontrer Salinger à l'époque où il était reclus dans sa maison dans le New Hampshire. Et c'était un homme détestable, qui l'a surdominé et qui a failli détruire sa vie. Donc je conseille par la même occasion pour avoir une pleine connaissance de cette histoire de lire les livres de Joyce Maynard, qui donne à voir un autre angle de cet auteur génial qui est Salinger.
Vous allez dire que je cherche des clins d'œil partout, mais est-ce qu'il y a un peu de Holden Caulfield dans Les hommes manquent de courage, chez Marco?
Pas vraiment, non. Holden Caulfield est beaucoup plus sage. Il aimerait être un rebelle, mais il n'en est pas un. Et Marco, lui, ce qu'ils ont de commun, c'est une forme de dépression. Une sorte de mal-être comme ça qui transpire par tous les pores de leur peau et ils ont du mal à comprendre d'où ça vient. Mais ça, c'est le propre de l'adolescence, je pense. Je vais lire juste un tout petit bout de la première page parce qu'il y en a qui j'imagine, n'ont pas lu. Ça commence comme ça. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance. Et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc, ça me rase. Et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça, ils sont susceptibles. Spécialement mon père. Autrement, ils seraient plutôt sympas et tout, d'accord. Mais ils sont aussi fichument susceptibles. Et puis, je vais pas vous défiler ma complète autobiographie. Je vais juste vous raconter ce truc dingue qui m'est arrivé l'année dernière vers la Noël, avant que je sois pas mal esquinté et obligé de venir ici pour me retaper. Ça, c'est les deux, trois premières phrases. Et ce style, très parlé, très oral, j'ai eu beaucoup de mal à croire que ça avait été écrit entre 1945 et 1950. Je pense qu'on est nombreux à avoir voulu écrire comme ça. Dans, je pense, les années qui ont suivi, même à mon corps défendant, j'ai dû, je pense, essayer d'écrire de cette manière-là, avant de comprendre que ça ne sert à rien de singer ce qui a été déjà très bien fait. Ce qui compte, c'est de trouver sa voie à soi. Mais oui, en fait, les très bons livres, en tout cas ceux qui vous marquent, vous laissent des traces, notamment dans l'écriture. À quel point ils influencent ou influenceront ce que je vais écrire, je ne pourrais pas le quantifier, mais ils sont là, c'est sûr.
L'attrape-cœur de Salinger, c'est paru aux États-Unis en 1951. Ça a été traduit en français en 1953 chez Robert Laffont. Et la version que vous avez entre les mains, c'est la version bilingue, traduite en français par Annie Saumon et parue en 2018 chez Robert Laffont. Quel est le troisième livre que vous avez choisi?
Alors, le troisième livre, c'est celui que j'ai lu le plus récemment, on va dire, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, je pense. Ça s'appelle Train, et c'est d'un auteur américain qui s'appelle Pete Dexter, qui lui aussi, un peu comme Carrère, a un passé de journaliste avant d'écrire des romans. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Lionel, un jeune noir qui travaille dans un club de golf. Il a pour mission de porter les sacs des joueurs exclusivement blancs. Les caddies, donc c'est le nom de ces employés du club qui portent les sacs, ont le droit de jouer quand il n'y a plus de joueurs sur le green, quoi. Donc il joue à la nuit tombée, il joue très tôt le matin. Et c'est un très très bon joueur de golf. Mais un joueur qui n'a pas le droit de jouer. Il va faire la rencontre d'un inspecteur un peu étrange, genre de mec avec déjà une gueule et une vie, quoi. On ne sait pas tellement ce qu'il a vécu jusqu'à présent, mais on voit qu'il est déjà sur la deuxième partie de sa vie. Et ces deux hommes qui n'ont rien à voir, un blanc, un noir, un inspecteur, un gamin, vont vivre une aventure extraordinaire. Je ne sais pas tellement comment la résumer, mais c'est aussi une histoire de sortie d'adolescence. C'est-à-dire que Train, c'est un gamin dans une Amérique raciste qui vit chez sa mère avec un beau-père qu'il déteste. Son horizon est totalement bouché, c'est un bon joueur qui n'a pas le droit de jouer. Et pour autant, il va décider de péter le plafond de verre à coups de poing et d'essayer de s'en sortir. Ça fait partie des livres que je peux relire chaque année, quoi. Et je trouve que les Américains, sur ce genre d'histoire, sont bien meilleurs que nous, les Français. Je suis désolé de dire ça dans un podcast sur la littérature, mais je trouve vraiment qu'on est à des années-lumière de leur degré de précision. C'est-à-dire qu'eux considèrent ça comme un travail, d'écrire des histoires. Et on le sent, en fait, c'est précis. Au Train, on voit qu'il existe. Parce qu'il est précis. On est avec lui, on comprend sa façon de penser. Je trouve que les Américains, particulièrement ceux qui arrivent à allier le meilleur du nouveau journalisme, des auteurs comme Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, Hunter S. Thompson aussi, ou John Didion, enfin, qui ont associé la force du réel et la joliesse aussi d'une écriture très littéraire pour parvenir à quelque chose de presque parfait. Dans la manière de raconter une histoire.
Train de Peter Dexter, qui a donc reçu le National Book Award en 1988. Et la version que vous avez entre les mains est sortie à l'Olivier en 2005, traduite par Olivier de Paris. Merci beaucoup, Mathieu Palin.
Merci.
C'était Par Réfraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Mathieu Palin pour sa participation. Vous pouvez découvrir « Les hommes manquent de courage » paru à l'Iconoclaste, ainsi que ses précédents livres en bibliothèque ou en librairie. Cet épisode a été enregistré juste avant la fermeture pour travaux de la BPI pour environ 5 ans. On en a profité jusqu'aux derniers instants. À partir du 25 août 2025, la Bibliothèque publique d'information sera relogée dans le bâtiment Lumière au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement de Paris. En attendant, notre podcast continue à circuler virtuellement entre les allées de la bibliothèque par réfraction. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. Vous pouvez découvrir nos précédents épisodes consacrés à Blandine Rinkel et à Juliette Drouard. Prochain rendez-vous, Raphaël Meltz. À bientôt.